Je vous invite à la prière pour ce temps de prédication. Notre Père, merci encore de nous avoir rappelé que tu es effectivement ce Dieu qui est, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu glorieux à nos côtés. Et nous savons que ton action puissante manifeste dans notre vie, par ton esprit, par ta parole qui est vivante aussi. Et nous voulons continuer d'être attentifs à ta voix encore ce matin. Merci parce que tu te révèles à nous et nous voulons recevoir ce que tu veux nous communiquer ce matin. Nous te prions aussi pour les enfants, que tu sois avec eux et que tu bénisses ce temps. Amen. Je vous propose de poursuivre notre série de prédications sur l'Évangile selon Luc. Et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 8. Alors je lis dans Luc, chapitre 8, à partir du verset 5. Alors ce n'est pas dans le texte, mais j'ai presque envie de commencer par « Il était une fois ». Il était une fois. Il était une fois un semeur qui sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je m'arrête là pour l'instant. Ce récit est une parabole de Jésus, et si vous êtes familier avec la Bible, vous connaissez certainement cette histoire et sa morale. Et ce qui est bien avec ce texte, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui est bien avec ce texte, c'est que Jésus donne l'explication à ses disciples dans les versets qui suivent. Nous allons d'ailleurs la lire dans quelques instants. Avant cela, j'aimerais partager quelque chose avec vous. C'est qu'en tant que prédicateur, c'est typiquement le genre de texte que l'on redoute. Pourquoi ? Parce que c'est un texte tellement connu dans nos églises, tellement prêché, est tellement bien expliqué par Jésus que l'on se demande ce que l'on va pouvoir annoncer de plus. Mais à ma grande surprise, en méditant ce texte, j'ai redécouvert l'Évangile. Et j'oserais même dire que j'ai découvert à quel point cette parabole est puissante. Elle ne laisse pas le lecteur ou l'auditeur indifférent. Lisons maintenant la suite, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ceux qui entendent, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Dans cette partie du discours, Jésus s'adresse particulièrement à ses disciples. Et il prononce des paroles assez troublante, je trouve, au verset 10 par exemple. Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Jésus annonce qu'il y a deux types de personnes. D'une part, les disciples à qui les mystères du royaume de Dieu sont révélés. Et d'autre part, il y a les autres. Et pour les autres, les révélations sont dites en parabole, afin qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Pourquoi Jésus parle de manière à ne pas être compris ? Personnellement, quand je prépare une prédication, j'essaye de faire en sorte que mon message soit compréhensible par le plus grand nombre. Je passe une bonne partie du temps à réfléchir sur la manière de dire les choses pour que ce soit accessible. Mais Jésus, lui, parle en parabole pour que tout le monde ne puisse pas comprendre. C'est assez troublant. Connaissez-vous le cryptage à l'ancienne de Canal+ ? Je pense que les plus jeunes n'ont peut-être pas connu cela, mais les autres voient certainement de quoi je parle. Comme vous le savez, certainement, la chaîne Canal+ est payante. Et pendant un certain temps, tout le monde pouvait capter la chaîne. Mais la plupart du temps, tout était brouillé. C'était d'ailleurs frustrant parce qu'on pouvait deviner ce qui se passait à la télé, mais l'image et le son étaient brouillés. Et pour avoir la netteté, pour pouvoir avoir l'image nette, il fallait payer. Il fallait louer le décodeur de Canal+. Alors aujourd'hui, la chaîne reste payante et pour la regarder, il faut encore s'abonner. Jésus, pour sa part, n'utilisait pas le cryptage Canal+, mais il utilisait des paraboles. Pour les comprendre, il faut décoder. Et cela nous surprend parce que la mission de Jésus était d'annoncer l'évangile à tout le monde, sans distinction. Alors pourquoi parler de mystères révélés à certains et pas à d'autres ? En fait, dans cette parabole, Jésus cite le prophète Ésaïe. Le prophète parle de la part de Dieu et il annonce un jugement à l'encontre du peuple d'Israël. Ce peuple s'est endurci. Quand bien même il entendra la parole de Dieu, il ne comprendra pas. Quand bien même il entendra, il ne comprendra pas. Pour comprendre, il faut avoir un cœur ouvert à Dieu. Celui qui ferme son cœur ne peut pas comprendre. Du coup, ce n'est pas exactement comme Canal+. Les paraboles sont accessibles si, et seulement si, celui qui entend écoute avec un cœur disposé. Et cela est cohérent avec la parole de Jésus au verset 8, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et cela est aussi cohérent avec le message même de la parabole. Alors quel est ce message, justement ? Pendant très longtemps, je comprenais ce texte de la manière suivante. Il y aurait quatre types de terrains qui illustrent quatre types de personnes. Alors c'est exact, hein, mais c'est pas complet. En tout cas, voilà, quatre types de personnes. On est au deuxièmement. La première catégorie de personnes refuse la parole de Dieu. Elle n'est pas sauvée. Le texte au verset 12 parle bien du diable qui vient enlever ce qui a été semé dans le cœur de peur qu'elle ne croie et soit sauvée. Donc c'est bien le salut qui est en jeu ici. La deuxième catégorie de personnes accepte la parole de Dieu avec joie. Mais cela ne dure qu'un temps. Leur foi est superficielle. Au bout d'un moment, ces personnes abandonnent la foi. C'est ce que l'on peut déduire du verset 13. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. La troisième catégorie de personnes accepte la parole et croit. Ces personnes croient en Dieu, elles ont la foi, mais cette foi cohabite avec d'autres préoccupations. Et pour moi, cette troisième catégorie de personnes désignait des chrétiens, mais des chrétiens, par exemple, qui ne s'engagent pas. Ce seraient des gens qui croient, mais qui ne vont pas plus loin. Par exemple, des chrétiens qui ne participent pas à une vie d'église, des chrétiens qui ne témoignent pas, etc. Des chrétiens qui croient que Jésus est leur sauveur, mais cela n'a pas trop de répercussions dans leur vie de tous les jours. Ces personnes seraient comme des gens qui passent un examen avec juste la moyenne, 10 sur 20. Ils croient donc qu'ils sont sauvés, même si ils ne sont pas trop engagés. Enfin, la quatrième catégorie de personnes désigne ceux qui croient et qui pratiquent, ils portent du fruit. Et donc pendant un certain temps, j'ai interprété cette parabole ainsi. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais en partie dans l'erreur. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas entièrement juste, il me semble. Je pense que Jésus veut nous enseigner autre chose. Dans cette parabole, nous sommes au troisièmement, il n'y a qu'un seul terrain qui soit bon. Troisièmement, un seul bon terrain, et c'est le quatrième. Si l'on regarde bien le texte, le mot « bon » est utilisé uniquement pour le quatrième terrain. Verset 8, une autre partie tomba dans la « bonne terre ». Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Au verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. La seule terre qui vaille la peine, c'est celle qui permet à la semence de croître et de produire des fruits. Alors je vais peut-être vous choquer, mais Dieu ne veut pas des convertis. Dieu ne veut pas des convertis. Il ne veut pas juste des gens qui croient. Et puis voilà. Il veut des disciples, des personnes qui s'engagent, qui témoignent, qui pratiquent des œuvres bonnes selon la volonté de Dieu. En résumé, il veut des personnes qui portent du fruit. Jésus n'a jamais dit « Allez, faites de toutes les nations des convertis ». Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». La parabole met en scène un semeur qui sème. À quoi bon semer si ce n'est pour récolter? Et je pense que l'on est dans une région où on est conscient de ça. À quoi bon semer si ce n'est pour récolter? Imaginez que vous plantez deux plants de tomates. Je sais qu'il y a des spécialistes dans cette salle. Vous plantez deux plants de tomates et vous avez un plant qui ne donne que des feuilles et un autre qui donne beaucoup de fruits. Honnêtement, de quel plant serez-vous le plus satisfait? Lorsqu'un semeur sème, c'est pour avoir des fruits. Dans cette parabole, Jésus nous invite à être un terrain fertile. Jésus nous invite à accueillir favorablement la parole de Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais le message va plus loin. Nous sommes appelés à accueillir la parole de Dieu, mais pas seulement. Cette parole doit être écoutée et mise en pratique. Il souhaite que notre semence grandisse et porte du fruit. Nous sommes maintenant au quatrième point, porter du fruit. Par la même occasion, cette parabole nous indique aussi ce qui pourrait nous empêcher de porter du fruit. Ce qui peut nous empêcher de porter du fruit. Et c'est dit à travers l'image du troisième terrain. Dans ce terrain-là, pourquoi la semence ne peut-elle pas pousser correctement? C'est à cause, il y a trois causes qui sont mentionnées, les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Quel est le point commun entre ces trois choses, préoccupations, richesses, plaisirs de la vie? Eh bien, ces trois choses peuvent nous pousser, je dis bien qu'elles peuvent, hein, elles ne le font pas forcément, mais elles peuvent nous pousser à être égocentrique, c'est-à-dire être centré sur soi, à penser à nous en premier. Mais pour porter du fruit, Dieu devrait avoir la première place dans notre vie. Cela signifie que ma vie ne devrait pas être centrée sur moi, mais sur Dieu. Le seul moyen de porter du fruit, c'est d'être théocentrique et non pas égocentrique. Dieu en premier et le reste en deuxième. Mon objectif, ce n'est pas mon bien-être, mais c'est de produire des fruits pour le semeur, pour Dieu. Évidemment, les préoccupations ne sont pas à ignorer, les richesses ne sont pas à rejeter, les plaisirs de la vie ne sont pas mauvais en soi. Mais faisons attention que toutes ces choses ne deviennent pas plus importantes que Dieu. Lorsque nous souffrons de solitude, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes préoccupés ou déprimés, lorsque nous subissons une injustice, eh bien naturellement, nous cherchons à sortir de la souffrance. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Cependant, cette recherche peut devenir plus importante que Dieu. Si nous voulons porter du fruit, nous devrions être préoccupés non pas d'abord par notre bien-être, mais par les fruits à produire pour Dieu. Et ce choix est difficile. Il paraît fou aux yeux du monde. Mais Jésus n'a jamais dit que la vie de disciple serait facile. Au contraire, il a dit que son chemin est étroit et tortueux. Il a dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix. L'apôtre Paul parle de l'évangile comme un message fou, un message insensé. Il définit le chrétien comme celui qui a été crucifié avec le Christ. Cela signifie que le chrétien laisse sa vie à Dieu. Il ne vit plus pour lui, mais pour Dieu. Il est théocentrique et je dirais même christocentrique, centré autour du Christ. Suivre Jésus implique le chemin qu'il a pris. Alors ce que je dis peut vous paraître dur. Vous pensez peut-être que cela ne vaut pas la peine de suivre Dieu. Mais en disant cela, on sous-entend qu'on cherche un intérêt à suivre Dieu. Et on tombe dans l'égocentrisme. On cherche un intérêt. Cela dit, celui qui met vraiment Dieu en premier trouvera l'épanouissement, même s'il vit des situations compliquées. Reprenons la comparaison avec le terrain et avec la plante. Une plante épanouie, c'est une plante qui produit des fleurs, des fruits et qui se multiplie. Alors les connaisseurs diront peut-être qu'une plante qui produit des fleurs, c'est peut-être aussi une plante qui souffre, qui se sent menacée, et donc elle produit des graines pour se multiplier face à la menace. Et ce n'est pas faux. Mais pourquoi cette plante veut à tout prix produire des fleurs et se reproduire? C'est parce que c'est sa vocation. Une plante est faite pour grandir, fleurir, produire des graines et se reproduire. Et si l'on prolonge l'image, je pense qu'une plante qui se sent trop à son aise pour produire des fleurs, c'est finalement une plante qui s'est laissée aller par le confort et qui a perdu de vue sa vocation. Un peu comme la semence du troisième terrain qui arrête de croître à cause des richesses et des plaisirs de la vie. Une plante épanouie, c'est bien une plante qui produit des fruits. Et nous, quelle est notre vocation sur cette terre? Pour quelle mission avons-nous été créés? C'est pour glorifier Dieu en premier, pour produire des fruits. Si nous accomplissons cette mission, nous serons comme une plante épanouie, même dans la maladie, même dans la solitude, même dans l'injustice, même dans la pauvreté. Pour conclure, j'aimerais dire quelques mots sur les fruits. J'ai beaucoup parlé des fruits, mais que représentent ces fruits dans la parabole? Justement, je trouve cela très intéressant que cela ne soit pas explicité. Si Jésus avait décrit ce que sont ces fruits, nous pourrions avoir deux types de réactions. Nous pourrions appliquer les instructions de Jésus en nous disant « ça y est, Donc voici les fruits, je coche un à un les choses que j'ai faites, et voilà, j'ai atteint l'objectif, je suis en train de produire des fruits pour Dieu. Je suis quelqu'un de bien. Mais est-ce que le cœur y est? Ou alors nous pourrions ne pas accepter que Dieu nous demande ce que Dieu nous demande et le prendre pour un être légaliste, sectaire. Par exemple, alors c'est juste un exemple, hein, imaginaire. Imaginons que Jésus avait dit « Je veux que ceux qui me suivent participent au culte absolument tous les dimanches sans faute ». Eh bien, certains appliqueraient peut-être cette recommandation en se disant « Eh bien, comme je vais au culte, c'est bon, je suis en règle avec Dieu. Je suis quelqu'un de bien, je fais la volonté de Dieu. » Et d'autres se demanderaient certainement bah, « C'est quoi ce Dieu légaliste ?» En fait, aucune des deux réactions n'est la bonne. Dieu nous invite à penser à lui en premier, dans toutes nos décisions, et cela ne se résume pas à une liste de choses à faire. Mais c'est un discernement permanent. Lorsque nous mettons Dieu en premier dans notre vie, nous prenons nos décisions non plus en visant notre bien-être, mais nous prenons nos décisions en visant les fruits que Dieu nous appelle à produire. En se posant, par exemple, les questions suivantes. Quels sont les choix qui honorent le plus Dieu ? Est-ce que cette décision m'aidera à grandir dans la foi ? Ou est-ce qu'au contraire, cette décision pourrait freiner mon engagement avec Dieu ? Comment honorer Dieu dans ma manière de me comporter avec mes proches, avec mes collègues ? Qu'est-ce que je souhaite pour ma famille ? Quelle est sa finalité ? Qu'est-ce que je souhaite pour mes enfants ? Ou mes petits-enfants, qu'ils aient un métier prestigieux, qu'ils réussissent en société, ou alors qu'ils deviennent disciples de Jésus, quel que soit leur métier. La parabole du semeur est une parabole qui nous bouscule plus qu'on ne le pense. Jésus nous enseigne que la bonne terre est uniquement celle qui produit du fruit. Que Dieu nous donne donc un cœur bon et sincère pour produire des fruits avec persévérance. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que cette persévérance, ce cœur bon et sincère, nous savons que nous pouvons l'attendre que de toi. Merci parce que c'est vers toi que nous pouvons nous tourner pour demander de l'aide, pour demander que tu agisses dans notre vie afin que nous soyons vraiment en relation avec toi. Que nous soyons vraiment à t'écouter, ouverts à ta présence, et que nous soyons toujours les yeux fixés sur toi et non pas sur nous-mêmes. Et merci parce que, en te faisant confiance, en mettant notre foi en toi, en cherchant d'abord à te faire plaisir, eh bien, c'est là que nous serons épanouis. C'est là que nous serons dans notre vocation d'enfants de Dieu. Et merci parce que nous sommes effectivement tes enfants et tu es notre Père. Seigneur, nous te prions pour notre Église et pour chacun de nous que nous puissions effectivement porter du fruit, que nous soyons cette terre qui produit en abondance. Au nom de Jésus. Amen.